Conférence par le Père Philippe à Rimont, le 3 août 1990, les trois sagesses.
Et aux autres, un grand bonjour. On m'a demandé de vous parler des trois sagesses. Alors je vous dis tout de suite, hein, pourquoi cela? Parce que dans notre règle de la communauté Saint-Jean, nous reprenons ce que saint Thomas dit au début de la somme. Saint Thomas dit qu'il faut respecter la diversité de ces trois sagesses. Je crois que c'est intéressant. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Je commence par une petite anecdote. Quand le Saint-Père est venu à l'université de Fribourg, je n'étais plus du reste comme professeur, donc j'assistais à son passage du côté des élèves, des étudiants. C'était mieux. Les professeurs étaient derrière, sur l'estrade. J'étais avec les étudiants. Le Saint-Père a fait un discours. Quand on connaît un peu le Saint-Père, on voit ce que c'est. Sur ce qu'est l'université de Fribourg, qui doit être une université d'inspiration catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, de fait, on respecte la diversité des savoirs, et qu'on met au sommet une certaine vision de sagesse. On va expliquer ce que c'est. Après le discours du pape, on a demandé à des étudiants et des étudiantes s'ils avaient des questions à poser au pape. C'est toujours très dangereux de faire ça. On ne sait jamais ce qui va sortir. Là-dessus, une étudiante a demandé d'avoir la parole. Je ne crois pas que c'était fait d'avance. Et cette étudiante a dit ceci. Je l'ai gardé parce que dans ma mémoire et dans mon cœur, parce que c'était assez net et simple. Très Saint-Père, comment se fait-il qu'ici à Fribourg, nous avons beaucoup de professeurs qui donnent des cours bien, très bien informés? Mais comment se fait-il qu'on a si peu de maîtres? On a dit ça devant le corps professoral qui était là, en face du pape. Pas commode à répondre. Je me fais dans la situation du pape. Alors le pape a simplement dit, oui, ça demanderait beaucoup de réflexion de répondre à cette question. Mais je peux vous dire tout de suite ceci. Pour être un maître, il faut avoir une vision de sagesse. Pour être un professeur qui informe sur les matières, peut-être soi-même bien informé. Mais tout le monde peut l'être aujourd'hui, facilement. Ce qui est difficile, c'est de former des intelligences. Et ça, c'est le rôle d'un maître. Mais pour cela, il faut monter très haut. Il faut une vision de sagesse. Alors, vous voyez, je crois que ça éveille bien le problème, ça. Un professeur informe. Mais on demande plus à un professeur. S'il doit être un maître, il forme l'intelligence de ses disciples. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est très ancien. C'est chez les Grecs. Sophia, sagesse. Hein? Sophia, Sophie. Hein? Quand vous dites à quelqu'un, vous l'appelez Sophie, traduisez sagesse. Voilà ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est? Philosophes qui ont distingué la science et la sagesse. La science et saint Augustin reprit, et saint Thomas reprit, et ça demeure, j'allais dire, quelque chose de commun au point du patrimoine européen, de culture européenne. Je ne sais pas si la nouvelle Europe gardera encore cette distinction, si elle ne la garde plus, c'est très gênant. La science, c'est connaître science, vous voyez. La science au niveau moderne, c'est connaître les lois. La science au niveau grec, c'est connaître les causes propres et les principes propres. Et la sagesse, c'est connaître la cause ultime. Bon, je vais mettre les trois en parallèle pour que vous puissiez réfléchir là-dessus. Alors, science, les sciences modernes, quand on parle des sciences humaines, la science psychologique, la science historique, qu'est-ce que c'est ? Connaître les lois. Les lois, c'est connaître des relations nécessaires entre A et B. Connaître les relations nécessaires entre A et B. Si A existe, B est posé. La science grecque, épistémée, qui a, dont le langage, dont la signification, est restée à travers tout le Moyen-Âge, au moment de l'apparition de la science moderne physique. Les sciences, ça impliquait les mathématiques aussi, et puis ça impliquait la philosophie. Parce que les mathématiques ont été quand même les premières sciences inventées. Il y a une phrase d'Aristote que je cite souvent, parce que je l'aime bien. Les mathématiques sont nées en Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Mais, parce que pour les connaissances spéculatives, il faut avoir du temps. Alors les mathématiques, c'est quelque chose de très particulier. C'est les axiomes, comme disaient les anciens. On pose certains axiomes et à partir de là, on peut tout régler. Des axiomes ou des hypothèses. La philosophie, elle recherche les causes propres ou les principes propres. Et puis, la sagesse. Et la sagesse peut être philosophique, ou la philosophie peut être sagesse. Et la sagesse, c'est lorsqu'on atteint la cause première, ultime, la fin ultime, la fin, ce qui finalise, ce qui donne le sens à tout. La fin étant considérée comme la cause des causes. Et donc la fin ultime, c'est vraiment ce qu'il y a de dernier, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Et cette fin ultime, c'est dans le langage religieux Dieu. Dans le langage philosophique, on dit fin ultime, cause première, et dans le langage religieux, on dit Dieu. Dieu le Créateur. Les sciences particulières, ou la philosophie dans ses parties qui ne sont pas la sagesse, recherche les causes propres, tandis qu'ici on touche la fin ultime, la cause première. Une sagesse atteignant Dieu, créateur, jugera tout en fonction de Dieu. Je vous donnerai des exemples pour que vous compreniez mieux. Alors, j'ajoute, ça c'est saint Augustin qui dit ça, j'ajoute que pour saint Augustin, la sagesse implique une connaissance affective, aimante. Parce qu'on ne peut pas découvrir Dieu sans un certain amour. Ce que je crois. Dieu, ça ne se découvre pas comme un théorème de géométrie. Descartes l'aurait voulu. Mais là, il s'est mis le doigt dans l'œil. Je ne peux pas découvrir Dieu selon une méthode mathématique. Les mathématiques n'atteignent pas ce qu'il y a d'ultime. Les mathématiques ont comme fin. Ça, c'est le vieil Aristote qui dit ça. Le haut. L'ordre. L'harmonie. Qui permet d'atteindre ça. Les proportions. Toute espèce de proportion. La mathématique demeure toujours dans un domaine d'intelligibilité qui peut être très pur, mais ça reste le domaine des possibles. À partir d'une certaine expérience. La philosophie réaliste part de la réalité existante. Et cherche à analyser cette réalité. Cette réalité existante, la philosophie étudie l'homme. Je crois que c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Si on fait de la philosophie, c'est pour mieux connaître l'homme. Vous voyez ? Là encore, je vous raconte une petite anecdote pour que vous compreniez mieux. Parce que c'est important. Il y a quelques années, je prêchais au Carmel de Limoges, étant à Fribourg, c'était pendant les vacances, et la mère supérieure me dit, bon, bien, ça ne vous dérange pas qu'à midi, il y ait 5 prêtres ouvriers, puisqu'elles prennent leur repas tous les mois au Carmel, qui soient là. Je dis, au contraire, ma mère, c'est très bien. Moi, je me suis trouvé devant 5 prêtres ouvriers. Qui tout de suite m'ont dit, qu'est-ce que vous faites ? Il ne disait pas en civil, mais en militaire. Qu'est-ce que vous faites ? Alors j'ai dit, mais je suis dominicain, j'enseigne à Fribourg, à l'université, la philo. Ah, quelle philosophie ! Alors je réponds, parce qu'il faut toujours, quand on est interrogé comme ça, il faut vite renverser la vapeur. Je dis, mais pour vous, il y a diverses philosophies. Alors, il était coincé parce que je les interrogeais. Oh, on ne sait pas, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas, ben alors bon, très bien, si vous ne savez pas. Bien, moi, je crois qu'il n'y a qu'une seule philosophie. C'est la recherche de ce que c'est que l'homme. Ouvrez des yeux, étonnés. Oui, qu'est-ce que c'est que l'homme ? Vous êtes prêtre ouvrier, pourquoi ? Pour connaître l'ouvrier. Hein, c'est pour ça que vous l'êtes. Ah, oui, oui, c'est vrai. Bien, moi, je suis philosophe pour connaître l'homme. Et je suis prêtre ouvrier aussi, puisque je travaille à l'université. D'une autre façon que vous, mais je suis prêtre ouvrier, quoi. Je suis avec des professeurs, je travaille aussi d'une autre façon, c'est pas la même chose. Mais je suis prêtre ouvrier pour connaître l'homme. Parce que je dis, vous ne connaîtrez pas, et jamais ce que c'est que l'ouvrier, si vous ne connaissez pas ce que c'est que l'homme. Alors là, je l'ai batté, vous voyez. J'allais plus loin qu'eux. Donc, j'allais plus loin qu'eux. Je ne peux pas connaître ce que c'est que le patron, je ne peux pas connaître ce que c'est que l'ouvrier, si je ne connais pas ce que c'est que l'homme. Parce que la mesure de l'ouvrier, c'est l'homme. Et la mesure du patron, c'est l'homme. Elle a dit, mais comment connaître l'homme ? Par l'expérience, le travail. Je fais un cours sur la philosophie du travail. Ah ! Oui, oui, oui. Puis j'ai développé après tout ce qu'on pouvait faire par expérience. Ça arrivait à ce point que c'était très intéressant la philosophie. Oui, la philosophie, on regarde ce que c'est que l'homme. Quelles sont les expériences de l'homme? Hein, essayez, faites ça par écrit, vous. Quelles sont vos expériences humaines? L'expérience majeure de toute l'humanité, c'est le travail. Le boulot. Encore une autre petite anecdote. J'ai toujours pour vous montrer que la philosophie, elle est présente à tout ça. C'était quand j'étais chez les Dominicains à Étiole. J'aimais beaucoup d'aller souvent à Villeneuve-Saint-Georges pour prêcher à des bons cheminots, jussistes, merveilleux, que je connaissais bien, que j'aimais beaucoup. Parce que là, il y a beaucoup de cheminots. Hein. Garde du triage. Saint-Georges. Alors, je les avais là depuis le matin, c'était un dimanche. Et puis, je suis arrivé, je leur dis, mais sur quoi voulez-vous que je vous parle aujourd'hui? Alors tous, la prière, père, la prière. Mais priez avec nous pour nous apprendre à prier. Je dis, bon, très bien, c'est il y a 30 ans de ça, hein. C'est pas hier. Apprenez-nous à prier. Bon, très bien, on a passé une matinée merveilleuse. À midi est arrivé le doyen de Villeneuve-Saint-Georges. Maintenant, merveilleux, il voulait ce qu'il voulait. Alors il arrive. Alors, ah, alors de quoi vous a parlé le père? Mais, la prière. Puis il a prié avec nous. Oui, c'est très bien, mais il faut boulonner. Alors, ces braves gens qui boulonnent toute la semaine, ils ont répété, ils ont dit tout de suite, oh, on boulonne toute la semaine. Le dimanche, on a le droit de prier. Et nous voulons savoir ce que c'est que la prière. S'il est là au milieu de nous, nous voulons savoir ce que c'est que la prière. C'était très, très amusant, parce qu'il y a eu une petite discussion très amicale au café. C'était merveilleux. Mais on voyait bien leur désir qu'ils avaient. Hein. Apprendre à prier. Et ils m'ont dit qu'ils voulaient savoir qu'est-ce que c'est que la prière. Comment prier? Comment eux? Alors, quand on est lui arrivé, il faut boulonner. Des cheminots. Ils savent ce que c'est que vous l'amenez. Et ils savent très bien que c'est pas ça qu'on fait le dimanche. Et que si on a une récollection, on veut autre chose. C'est vrai qu'il faut savoir ce que c'est que le travail. Si vous calculez le nombre d'heures, hein, le nombre d'heures de travail dans votre vie, vous verrez que c'est là où vous battez tous les records. Sauf si vous dormez beaucoup. Alors, il y aurait peut-être une balançoire entre le sommeil et le travail. Mais normalement, un homme bien fait et une femme bien faite travaillent plus qu'elle ne dort. Ça, c'est l'équilibre. Quand vous commencez à dormir plus que vous ne travaillez, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que normalement, vous dormez pour travailler et non pas l'inverse. Vous ne travaillez pas pour dormir. Sauf si vous êtes freudienne ou freudien. Alors à ce moment-là, vous travaillez pour dormir, puisque c'est le sommeil qui est la grande expérience. C'est intéressant, c'est très simple. Le philosophe fait la philosophie du travail. Aujourd'hui, c'est la première chose qu'on doit faire en philosophie. Parce que c'est la grande expérience des hommes. Et que le marxisme a eu de l'emprise parce qu'il n'y avait aucune philosophie saine du travail. C'est vrai. Les philosophes chrétiens ont été paresseux. Ils n'ont pas fait de philosophie du travail. Aucune. Une seule encyclique sur le travail. Il a fallu attendre le pape actuel. Alors que le travail représente quelque chose d'important. Vous voyez, on avait laissé ça aux moines. Les moines travaillaient. C'est vrai, ils ont travaillé tous les temps. Ils travaillaient. Et bien alors qu'ils travaillaient bien, pas la peine de faire de philosophie. Alors que le travail doit ennoblir l'homme. Est-ce que le travail est humain? Ou est-ce que le travail peut être un lieu d'abrutissement? Quand le travail abrutit, ce n'est plus le travail. Le travail doit en oublier. C'est une activité humaine. Première grande expérience, le travail. Deuxième expérience, l'amour d'amitié. Troisième expérience, la coopération. Toute philosophie doit se fonder sur une expérience humaine saine. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons une expérience. Alors, il faut réfléchir là-dessus. Oui, la philosophie va analyser qu'est-ce que c'est que le travail humain. C'est une très belle analyse. Hein. Qu'est-ce que c'est que le travail humain? Qu'est-ce que c'est que l'amour d'amitié? Qu'est-ce que c'est que la coopération? La différence entre coopérer et exploiter. Pas commode à voir la différence. Quand un père de famille cultive une paire, il la cultive. Quand aujourd'hui on exploite une terre, on l'exploite. C'est très très différent. Parce que quand on cultive, les dents des petits-fils sont très heureux d'hériter d'une très bonne terre. Tandis que quand on exploite, les dents des petits-fils exploitent un terrain, il n'y a plus rien. On l'a exploité. Vous voyez, c'est important de réfléchir sur ces trois grandes expériences humaines. Et on cherche à partir de là, qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme est capable de travailler. L'homme est capable d'aimer spirituellement. L'homme est capable de vivre en communauté. Ce qui n'est pas si commode. Hein. Aujourd'hui, on voit très bien, vivre en communauté religieuse, c'est pas commode du tout. On est tellement d'individualistes. Tellement d'individualistes. C'est un problème de vivre en communauté. C'est très très difficile. Vivre individuellement, c'est très très bien. On est habitué. Trois grandes expériences. Mais à partir de là, on s'élève. Pour poser la grande question au plan philosophique. Est-ce qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu? Vous voyez, le mot Dieu n'est pas un mot que la philosophie a inventé. Il ne faut jamais oublier ça. Le mot Dieu, comme le mot âme, provient des traditions religieuses. C'est les philosophes qui se sont emparés de ces mots. Et c'est vrai, le grand problème philosophique, le problème philosophique fondamental, c'est de se demander, alors je pose tout de suite la question, parce que je crois que ça c'est très très important. Le grand problème philosophique, c'est de se poser si l'âme humaine existe. Si Dieu, tel que les traditions religieuses en parlent, existe. Ou est-ce que l'âme et Dieu, ce sont des mythes, des choses que l'homme a inventées? Vous voyez, on est obligé aujourd'hui, hein, au plan philosophique, de se poser la question à cause des idéologies athées. On est enveloppé d'idéologies athées depuis 150 ans. Depuis 150 ans, notre culture est imprégnée d'idéologie athée. Et on parle beaucoup de la pollution de l'air, de la pollution de la Méditerranée, et on oublie de parler de la pollution de la culture. Et notre culture qu'on respire, l'enseignement dit laïque, dit neutre, est imprégné d'idéologie athée. Regardez tout simplement comment, dans les petites classes, on enseigne ce que c'est que l'homme, ce que c'est que la femme. Et on pose la question, est-ce que Dieu existe? J'ai su récemment que dans une des facultés, un endroit où on enseigne la médecine, pas loin, autour de Paris, le professeur, les 8 premiers cours étaient donnés à la biophysique. Et le professeur a dit devant tout le monde, a dit, quand on étudie ce que c'est que l'homme et la vie humaine, on est obligé de reconnaître qu'il y a nécessairement quelqu'un, c'était 17 années ici, hein, qui a pensé cela. Prétendre comme certain que c'est le hasard, ce n'est pas scientifique. Et si vous assistez à un cours où un professeur vous dit ça, vous pouvez lever la main et dire, monsieur le professeur, ce que vous dites n'est pas scientifique. C'est beau, c'est intéressant, savoir que c'était dit cette année-ci. Et j'ai des témoins qui me l'ont dit. Et lui a ajouté, on doit dire que quand on étudie l'homme au niveau de sa vie, que c'est quelque chose de tellement admirable, de regarder le développement de l'embryon. C'est quelque chose de tellement admirable, tellement extraordinaire, que ça ne peut être que pensé par un génie. Un être premier, créateur. Et si on vous dit que c'est le hasard, dites bien que ce n'est pas scientifique. Et que c'est quelque chose qui est en dehors. Le savant doit constater la grandeur de la vie, surtout s'il veut être médecin, la beauté de la vie. Et quand il se pose la question, d'où vient tout cela, où il se tait, en disant, je ne sais pas, en tant que savant. Ou bien, s'il cherche, il peut dire que ça ne peut venir que d'une première. Voilà le grand problème philosophique. L'âme humaine qui provient des traditions de l'Inde. Parce que quand on dit que l'âme humaine provient de la Grèce, ça s'est dit beaucoup à un moment donné. De Platon et d'Aristote, c'est faux. Ça provient de l'Inde. Aujourd'hui, on est absolument sûr. Toute tradition religieuse parle de la distinction de l'âme et du corps. Et parle toujours d'une âme humaine immortelle. Autrement, il n'y aurait pas de religion. La religion repose sur une âme humaine immortelle. Et la distinction de l'âme et du corps. Alors je comprends que le philosophe qui est intéressé aux traditions se pose la question. Est-ce qu'au plan philosophique, est-ce que je peux parler de l'âme? Ou est-ce que c'est un mythe? Je vous posais la question, qu'est-ce que vous diriez? Vous seriez, oui. Il y a des très grands génies qui ont parlé de l'âme. Vous savez cette petite anecdote très très jolie de Jean Vernard? Je trouve ça tellement joli. Il a un livre récent qu'il a écrit, n'est-ce pas? Il a écrit livre qui correspond à une question qui lui a été posée. Il allait prendre ses vacances dans son petit bled. Le professeur, dans l'endroit, lui a demandé, faites des petites conférences, puisque vous vous occupez de la bioéthique, faites des petites conférences sur la science, la science biologique aujourd'hui. Ça intéressera les enfants, les jeunes. Ça devait être des jeunes de 12 à 15 ans. Alors il a fait ça. Il leur a dit, très gentiment, si vous avez des questions, écrivez-moi des petits billets. Alors, il m'a dit, j'ai reçu un billet une fois, d'une petite fille, 12 ans. Elle avait mis son âge, 12 ans. Qu'est-ce que c'est que l'art? Alors il a écrit un livre là-dessus pour répondre à Brigitte. Je trouve ça très très joli. Hein. Vous voyez, ce grand savant, évidemment, en tant que savant, il ne parle pas de l'âme. Il ne peut pas en parler. Et un petit enfant de 12 ans, qui devait peut-être croyante, chrétienne, baptisée. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Eh bien, le philosophe doit relever le défi. Est-ce que l'âme, c'est un mythe? Ou est-ce que l'âme, dans les traditions religieuses, correspond à une réalité? On parle beaucoup de la personne aujourd'hui, on ne parle plus de l'âme. Alors, est-ce qu'il faut plus en parler? Ou est-ce qu'au contraire, le philosophe doit dire, non, non, il faut en parler. L'âme, Dieu, ce sont les traditions religieuses qui parlent de Dieu. Toutes les traditions religieuses parlent de Dieu, du Créateur. Ce n'est pas le philosophe qui a inventé le mot Dieu. Il l'a pris aux traditions religieuses. Zeus, Allah, aux traditions religieuses. Et doit se poser, est-ce que ça existe? Voilà la grande question du philosophe. Et quand le philosophe découvre que l'âme humaine existe et que Dieu existe, ça devient... La philosophie doit pouvoir aller jusque-là. Je me souviens, c'était pas tellement vieux, c'était sitôt la guerre. Un de mes amis, très cher, maintenant il est au ciel, il avait été en captivité. Et après la guerre, vous savez bien, tous ceux qui avaient été en captivité avaient des décorations. Pas. Alors, on l'avait mis professeur en Sorbonne. Il était bon philosophe, du reste. Mais sans la guerre, on ne l'aurait pas mis philosophe, pas mis en Sorbonne. Il a annoncé un cours sur Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Premier cours. Toute une quantité d'étudiants se lèvent. Monsieur le professeur, vous n'avez pas le droit de faire un cours sur Dieu ici. Nous sommes des laïcs. Il a simplement répondu, écoutez, Descartes parle de Dieu. Donc, vous êtes d'accord que je peux faire un cours sur Descartes? Je peux faire un cours sur Descartes. Quel est le Dieu de Descartes? Qu'est-ce que Dieu pour Descartes? Et tous les philosophes parlent de Dieu. Hegel parle de Dieu. Et ceux qui sont athées, ils parlent encore de Dieu. Parce qu'ils disent Dieu n'existe pas. Mais il faut savoir ce que c'est Dieu pour dire qu'il n'existe pas. Ou bien alors vous êtes des imbéciles. Et vous dites que, oui, n'importe quelle chose n'existe pas, mais ça signifie rien du tout. X n'existe pas. Alors, oui, vous êtes intelligent. Alors, devant ça, ils se sont tus, mais évidemment, le cours suivant, tous ceux qui avaient rouspété n'étaient plus là. Il a continué le cours pour ceux qui étaient là. Et c'est vrai, un philosophe doit se poser la question, Dieu existe-t-il? Et quand le philosophe a découvert les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, comment puis-je dévoiler Dieu? En face des idéologies athées d'aujourd'hui. Parce que je dois parler à un monde qui est le nôtre. En face des idéologies athées, je dois essayer de comprendre pourquoi ces idéologies athées refusent l'existence de Dieu. Et montrer que toutes ces idéologies athées ont un concept de Dieu qui ne correspond à rien de réel. En effet, à rien de réel. Et que si je parle de Dieu en essayant de comprendre ce que les traditions religieuses me disent de Dieu, je ne peux pas avoir de concept de Dieu et d'idée de Dieu. Je peux seulement affirmer. Et à partir de là, essayer de comprendre que peut-être cet être premier créateur, qu'est-ce qu'il est ? qu'est-ce que je peux comprendre de lui? Je sais que ça me dépasse complètement. Oui, le philosophe dans le monde d'aujourd'hui doit, comprenez bien le mot, hein, non pas faire de l'apologétique, je crois pas du tout, mais montrer que toutes les idéologies athées ont une conception de Dieu qui ne correspond absolument pas à ce que les traditions religieuses parlent de Dieu. Qu'il y a dans toutes ces conceptions quelque chose de faux. Toutes ces idéologies athées veulent réhabiliter l'homme, veulent libérer l'homme de la tyrannie de Dieu. Alors il s'agit de montrer au plan philosophique que libérer l'homme, c'est savoir ce que c'est que l'homme. L'homme concret, l'homme réel. Et à partir de là, je commence ma philosophie. Qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme travailleur, l'homme capable d'aimer, l'homme capable de vivre en communauté. Puis après, je pose la question, mais qu'est-ce que c'est que le corps de l'homme? Qu'est-ce que c'est que l'âme de l'homme? Son âme spirituelle. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est que la personne de l'homme? Et c'est à partir de cet aspect de l'homme en tant qu'il est une personne. Le terme de toute la philosophie, c'est de découvrir ce que c'est que la personne humaine. Et une fois que j'ai découvert ce que c'est que la personne humaine, je me pose la question, est-ce que la personne humaine est la réalité suprême? Vous vous posez de temps en temps la question. Alors vous comprenez, quand on se pose la question comme ça, mon voisin est très gênant. Ou ma voisine, c'est très très gênant. Parce que si je suis la réalité suprême, et mon voisin, qu'est-ce qu'il est? Il est mon serviteur et mon esclave. Qu'est-ce qu'il est, mon voisin? Si je suis la réalité suprême, il y a beaucoup d'hommes. Qu'est-ce que c'est que tous ces hommes? Alors on voit bien que l'homme, la personne humaine, ne peut pas être la réalité suprême. Et c'est à partir de la personne humaine que je sais de dévoiler la personne première, l'être premier, qui est une personne, qui est esprit. À partir du « je suis », je découvre le « je suis ». Et une fois que j'ai découvert que Dieu existe, qu'il existe un être premier, créateur, je peux, dans la lumière de Dieu, dans la lumière de cet être premier, comprendre ce que je suis. Je dépends de lui, je suis une créature. Mais dépendre de Dieu n'est pas une aliénation. Diverses dépendances. Et c'est un vieux philosophe grec qui disait déjà ça. Un vieux philosophe grec du 2e siècle après Jésus-Christ, Plotin, qui disait ça admirablement. Dépendre du petit chat, parce qu'on l'aime de trop. Dépendre du petit chien, parce qu'on l'aime de trop. C'est une aliénation. Dépendre de quelqu'un qui est plus grand que moi, c'est m'en oublier. C'est très beau ça comme réponse à toutes les idéologies athées, qui toutes ont cette perspective dialectique que dépendre de quelqu'un, c'est une aliénation. Alors il s'agit de montrer philosophiquement par le problème de la création, qui a diverses dépendances. C'est bien la vieille personne âgée, qui voyage toujours avec son petit chien de luxe. Son petit chien de luxe, vous regardez, vous êtes certain, vous voyez. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. N'est-ce pas? C'est le vieil adage, ça. Alors vous voyez au bout d'un certain temps des traits communs. Tiens, c'est curieux. C'est curieux, c'est très très drôle. Oui, la dépendance à l'égard d'un être inférieur nous aliène. C'est vrai, l'aliénation. L'aliénation, c'est-à-dire nous met dans un état de dégradation. Être aliéné, c'est être dégradé. C'est ne plus être soi-même. C'est ne plus avoir cette autonomie du « je suis ». On se dégrade. Dépendre d'un être inférieur à soi, c'est se dégrader. C'est un excellent examen de conscience philosophique, ça. Posez-vous tous les soirs la question. Dépendre d'un être inférieur à nous, c'est se dégrader. Dépendre d'un être supérieur à nous, c'est s'en oublier. Dis-moi qui tu fréquentes. Prochaine fois que vous voudrez dans le train avec une personne, faites attention de ne pas rire aux éclats en pensant au petit chien, barbu, au petit chat si vous aimez mieux, ça dépend des personnes. Alors ça c'est des yeux de chat, il faut faire attention aux griffes, n'est-ce pas? Mais c'est important de voir ça, parce que c'est la grande réponse en face des idéologies athées qui confondent. La dépendance entre quelqu'un qui est supérieur à nous, quelqu'un qui est inférieur à nous, dépendre de Dieu, d'un Dieu créateur qui est tout puissant, infiniment sage, infiniment intelligent, qui m'a créé par pure gratuité et par pur amour, n'est pas une dégradation. Alors vous découvrez philosophiquement ce que c'est que l'adoration. Donc voilà la première sagesse philosophique. Comme elle est importante aujourd'hui pour répondre aux idéologies athées. Alors, il y a un second cours dans quelques minutes pour vous reposer un peu.
le père Philippe Arimon, 3 août 90, suite.
C'est bien. J'avais oublié de vous dire que vous pouviez poser des questions, pas pendant le cours, parce que, mais après. Alors, il y a une question posée. Qu'est-ce qui nous permet de dire « j'ai une âme » et de la saisir vraiment dans ce qu'elle est ? Quelle est la démarche ? Alors, je ne vais pas m'avancer trop, parce que ça serait tout le cours. C'est sûr. Alors, je vais vous indiquer quelques petites pistes. L'expérience que vous avez de votre intériorité. Quand vous fermez les yeux et que vous réfléchissez sur quelqu'un que vous aimez, que vous réfléchissez sur une réalité qui vous intéresse, une personne qui vous intéresse, sur un travail qui vous intéresse. Vous voyez, la première expérience est celle de cette intériorité. Alors, d'où vient cette intériorité ? Mon corps en contact extérieur avec les réalités sensibles. Mon âme, du moins, j'ai la possibilité de comprendre que j'ai une possibilité de réflexion, d'aimer. Et quand j'aime et que je ne veux pas que les autres le sachent, je me tais, je ne dis rien. Et je sais qu'ils ne peuvent pas savoir. Autre chose est le visage que j'ai à l'extérieur. Autre chose, ma manière de me regarder. Et ça, c'est très sensible, par exemple, quand vous aimez quelqu'un et qu'un psychologue vient vous dire « Mais non, tu es un imbécile d'aimer cette personne. Tu ne vois pas tous ses travers. » Et qu'est-ce que vous lui dites ? Mais, tu ne l'aimes pas, c'est pas étonnant. Tu la regardes de l'extérieur. Quand il est dit dans l'Évangile, ne jugez jamais selon les apparences. Jugez en vérité. Que ça veut dire, cette vision extérieure, cette vision intérieure. Quand vous voyez un petit chat qui se regarde dans la glace, petite expérience qu'il faut faire, parce que le petit chat, après c'est vous, et vous vous regardez dans la glace, dites, tiens, voilà ce que les autres voient de moi. Pas très flatteur. Moi, je me vois autrement, tout à fait autrement. Deux visions, une extérieure, une intérieure. Puis à partir de là, vous pouvez réfléchir sur le fait que dans votre journée, vous avez des quantités d'activités qui viennent de vous. Vous écoutez un cours, après vous allez prier, après vous allez manger, après vous allez discuter, après, et ainsi de suite. Tout ça, c'est vous. C'est très différent. C'est très, très différent. Il y a une unité à tout ça. Et si vous essayez de réfléchir sur cette variété, cette diversité d'opérations vitales, et l'unité, vous dites, il faut qu'il y ait une source unique de toutes mes activités qui explique comment toutes ces activités relèvent du « je suis ». Je suis travaillant, je suis dormant, je suis mangeant, et ainsi de suite. Je suis de mauvaise humeur, je suis de bonne humeur, Je suis merveilleusement accueillant. Je suis une mauvaise poire. C'est vous. Il y a une unité. Et quelle est cette unité? Chose qui est à la source de tout ça et qui explique tout ça. Ce quelque chose qui est à la source de tout cela, on vous dira, c'est votre âme, source de vie en vous, source d'expérience en vous, source de toute cette diversité d'opérations qui relève toutes de vous. Oui, très vite, une expérience interne et puis l'analyse de ma diversité de mes opérations en voyant leur unité, ce qui me permet de poser par induction l'âme comme source de toutes mes activités. Alors maintenant, je passe tout de suite à la seconde sagesse, puisqu'il y a encore deux sagesses à voir. Ce qu'on appelle la sagesse théologique. De la théologie comme science particulière. La théologie. La théologie demande d'être une sagesse. Pourquoi? Je parle ici de la théologie chrétienne. Parler d'autres théologiens. La théologie chrétienne est une sagesse. Pourquoi? La théologie chrétienne part de la foi. Elle suppose la foi. La foi en la révélation. En la révélation divine. Dieu a parlé aux hommes. Je crois que Dieu a parlé à Abraham. Que Dieu a parlé à tous les prophètes, que Dieu a envoyé son Fils qui nous a parlé. Je peux réfléchir sur ce discours, sur cette révélation. Il y a un discours révélé. Humain pour nous parler. Dieu aurait pu très bien se servir d'un autre langage, inventer une langue propre. Ça aurait été merveilleux, ça. On aurait été baptisé avec le baptême, on aurait une langue nouvelle que ceux qui ne sont pas baptisés ne connaîtraient pas. Tu aurais pu très bien faire ça. Inventer une langue propre au baptisé. Dieu n'a pas fait ça. Pourquoi? C'est quand même très curieux. Moi, si j'avais eu un petit conseil à donner au Saint-Esprit, j'aurais dit, faites ça. Ce sera bien mieux. Comme ça, on reconnaîtra tout de suite. Et puis, ils seront attirés, vous comprenez, à recevoir le baptême. Ils recevront une nouvelle langue. C'est quand même intéressant. Recevoir une nouvelle langue infuse comme ça tout de suite donné. Avant le baptême, je comprends rien. Après le baptême, tiens, curieux. Oh, bien, reçois le baptême, tu verras. Et tu verras, tu seras enrichi d'une nouvelle langue. Tu aurais pu faire ça, ça aurait été une attraction merveilleuse. Dieu n'a pas fait ça. Parce que la révélation n'est pas faite pour nous donner une nouvelle langue. La révélation est faite pour nous révéler le mystère de Dieu. Et le mystère de l'homme vu dans la lumière de Dieu. si Dieu n'a pas employé une nouvelle langue, Dieu a employé la langue des hommes. Jésus a parlé araméen. Jésus a parlé grec à Jérusalem, selon les meilleurs exégètes de l'évangile de Saint Jean. Il a parlé grec à Jérusalem. Parce que à Jérusalem, la langue du temps du Christ était le grec sous l'influence de l'envahisseur, et puis déjà depuis un certain temps. C'était la langue cultivée. À Rome, on parlait grec, en partie. C'était la langue cultivée, la koiné, la langue commune. Vous voyez ? Un petit peu comme dans certains pays où il n'y a pas encore beaucoup de culture, on parle ou l'anglais ou le français. Qui fait une unité. Autrement, il faudrait apprendre un tas de dialectes différents ou un tas de langues diverses. Il y avait ça du temps du Christ. Ce qui est sûr, c'est que Jésus parle la langue de son peuple pour se faire comprendre. Si Dieu se sert de la langue des hommes, je peux donc, si je suis croyant, je reçois cet enseignement de Dieu. Je peux donc, pour approfondir cet enseignement, mettre toute mon intelligence au service de cette révélation, pour mieux la comprendre. Pour mieux la saisir. Mais je vais vous donner un exemple. Vous allez tout de suite saisir. Il est dit dans l'Écriture, Dieu est Père. Dieu est amour. Dieu est esprit. Dieu est lumière. Je peux, et tout le monde comprend à peu près ce que c'est, mais je peux approfondir, dire qu'est-ce que c'est la paternité ? Oui, je passe de père à paternité, comme on passe de blanc à blancheur. Vous voyez la différence ? Vous n'avez jamais vu la blancheur. Vous avez vu le blanc du mur, le blanc d'un visage, le blanc d'une chemise, ça vous le voyez. La blancheur, vous ne l'avez pas vue. Ça serait très troublant de voir la blancheur. On le voit que sur les réclames, la blancheur la plus éclatante qui soit. Comment ça se voit par la blancheur? On passe de blanc à blancheur. On passe d'un terme concret à un terme abstrait. Et le philosophe aime d'étudier ces notions abstraites. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui donnent la signification profonde. Oui, si vous regardez un bon dictionnaire, un petit Larousse, un petit Robert, cherchez blancheur et cherchez blanc. Qu'est-ce qu'on dira sur blancheur ? Blancheur, ce par quoi le blanc est blanc. Vous êtes très avancé, hein. Ce par quoi le blanc est blanc. Qu'est-ce que c'est que la différence entre paternité et père ? Paternité, ce par quoi le père est père. Mais c'est bête comme chose, hein. Mais c'est exactement ça. Vous passez d'un terme abstrait à un terme concret. Pourquoi l'intelligence a-t-elle inventé ces termes abstraits ? Blancheur.
bonté. N'a jamais vu la bonté. Vous avez vu des êtres bons. Vous avez vu un chien bon. Oh, ce qu'il est bon, ce chien. Il est bien meilleur qu'un tel. Voilà. La bonté, vous ne l'avez pas vue. Mais notre intelligence cherche à comprendre la signification des choses. C'est comme ça que commence la philosophie. Vous cherchez à comprendre la signification. Qu'est-ce que c'est que être père? Qu'est-ce qui est impliqué dans être père? Qu'est-ce que c'est que la paternité? Qu'est-ce que c'est que la qualité de blancheur? Parce que le blanc du mur, très bien. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce par quoi le blanc est blanc. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le blanc? Oui. Et vous posez la question, qu'est-ce ? Première question philosophique, qu'est-ce ? En grec, ti esti. Qu'est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? Le philosophe interroge. C'est comme ça que le philosophe commence à philosopher. Celui qui n'interroge jamais, il ne cherche pas à avancer. Première fois qu'il a vu un TGV. Qu'est-ce que c'est que ça, maman? Et la maman répond, un TGV. Vous comprenez que ça nourrit l'intelligence du gosse. Un TGV. Qu'est-ce que c'est que TGV? Et je te le dis. Alors elle l'écrit, TGV. Ça avance beaucoup. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est encore elle disait une locomotive. Et qu'est-ce que c'est qu'une locomotive? Est-ce que c'est une auto? Quelle différence entre la locomotive et l'auto? Alors, à ce moment-là, vous ne savez plus très bien, n'est-ce pas? La maman ne sait plus très bien. Je vous dis, oh, tais-toi, tais-toi. N'interroge pas tout le temps. Oui, vous arrêtez le progrès d'une intelligence parce que vous ne répondez pas. Il faut toujours répondre à un enfant. Toujours. Même s'il s'agit de dire, ça ne te regarde pas. C'est dangereux de dire ça. Parce que vous éteignez une intelligence en éveil. Dieu a employé un langage humain pour que nous puissions nous poser la question, qu'est-ce que c'est d'être père? La paternité. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Dieu est amour. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est que la lumière? Quand Jésus dit, je suis le pain véritable, qu'est-ce que c'est que le pain? Oui, la théologie a commencé par se poser ces interrogations. Et donc, en revenant à l'homme, je sais ce que c'est qu'être blanc. Je sais ce que c'est que d'être esprit, tu vois, un tout petit peu. Je sais ce que c'est que d'être bon. Je sais un tout petit peu ce que c'est que l'amour. Si je fais un peu de philosophie, l'homme est capable d'aimer. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Alors, on mettra la philosophie au service de la parole de Dieu, et ce sera la théologie. Et la théologie commence comme ça, très simplement. Puisque Dieu a parlé mon langage, Dieu m'invite à mettre mon intelligence au service de ma foi. Si Dieu n'avait pas pris un langage humain, je ne ferais que répéter. Dieu n'aime pas les perroquets. C'est curieux, mais c'est comme ça. Dieu n'aime pas les perroquets. Dieu aime les enfants. Une mère aime bien un enfant qui dit quelque chose qu'il a découvert lui-même. Ah, oh, maman, j'ai découvert. C'est ce petit gosse de 4 ans. Très sérieux. Sa mère lui sert sa soupe. Et la mère lui a montré, lui a enlevé son rond et la serviette. Et le petit gosse songeur dit, maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité? C'est authentique, ça. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? TGV, la merci à peu près, peut le montrer. L'éternité, hein, qu'est-ce que c'est que l'éternité? Tu es éternel. C'est dit. Pourquoi vous dites que tu es éternel? Alors la mère dit au gosse, mange ta soupe quand elle est chaude. Et on verra après. Le gosse reste fixé. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? C'est tenace. La mère s'était pas beaucoup posé la question. Qu'est-ce que c'était que l'éternité? Mais le gosse s'est posé la question. Et il veut une réponse. Alors la mère s'en va. Ce qu'elle avait de mieux faire. Quand elle revient, elle voit le gosse prendre sa soupe. Alors elle lui dit, alors tu as trouvé? Elle a peut-être mieux fait de rien dire. Mais elle lui dit, qu'est-ce que tu as trouvé? Et la mère, le gosse prend le rond. L'éternité, maman, c'est ça. Oui, la connaissance symbolique de la réalité. C'est le cercle où le commencement et le terme se tiennent. L'éternité, c'est ça. C'est très beau. À 4 ans, hein, petite intelligence éveillée. Il n'y a pas un livre aussi intelligent que la Bible. Si on était intelligent, on lirait la Bible tout le temps. Et on deviendrait très intelligent. On se poserait des tas de questions. On deviendrait théologien. On mettrait notre intelligence au service de notre foi. Les pères de l'Église montrent comment la théologie a commencé. Parce qu'il est dit, Dieu a façonné l'homme, le corps de l'homme, comme un potier. Or, il est dit aussi que Dieu est esprit. Un esprit